Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie l'Église, le Conseil, le pasteur. Et je suis très heureux de faire connaissance avec votre chapelle, le local. Mais je pense que quelques heures, vous étiez peut-être présents lors d'un culte qu'avait organisé le pasteur Kosicki pour la Pentecôte il y a quelques années. Un culte commun avec d'autres églises. Donc nous n'étions pas dans ce local, mais je pense que quelques-uns d'entre vous pouvaient y être présents comme je l'ai été puisque j'étais invité. Et comme vient de l'expliquer le pasteur, j'ai eu un ministère d'enseignement depuis d'assez nombreuses années puisque j'ai commencé à enseigner à l'Institut biblique de Nogent en 61. Et à la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine lorsqu'elle a été fondée en 65, et je continue à y donner quelques cours. Je vais mardi commencer le cours pour cette année à Nogent. Donc je continue par la grâce de Dieu d'avoir les forces nécessaires pour ce service. Je me réjouis d'explorer avec vous la pensée de Dieu concernant Israël. Et je précise l'Israël selon la chair. Nous parlerons bien sûr de l'autre Israël, car l'expression que l'apôtre Paul utilise dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 18, d'Israël selon la chair, suggère très fort, implique qu'il y a une autre réalité qui mérite de se dénommer Israël, mais qui n'est pas selon la chair. L'expression selon la chair spécifie de quel Israël on parle devant une pluralité possible. Nous allons nous intéresser plus spécialement au sujet de l'Israël selon la chair, le plus souvent quand même, et c'est ce que nous ferons aussi, on dit Israël tout court, mais on veut dire l'Israël selon la chair. C'est un sujet qui revêt une très grande importance dans l'Écriture. Le nom d'Israël revient 69 fois dans le Nouveau Testament, plus 9 fois le terme israélite. C'est déjà l'indication d'une présence importante. Et d'après les concordances que j'ai consultées, c'est dans l'Ancien Testament 2355 fois que le nom se trouve, y compris avec l'expression « fils d'Israël » ou « enfant d'Israël » qui se traduit assez normalement en français « israélite ». Donc quand on dit « israélite », cela est équivalent à cette expression typique de la façon hébraïque de s'exprimer dans l'Ancien Testament. C'est un sujet qui nous importe, dans la mesure où précisément l'Israël qui n'est pas selon la chair, nous allons nous en rendre compte en étudiant l'Épître aux Romains, c'est nous. Et il va falloir déterminer de manière un peu plus claire quel est le rapport que nous avons. Si nous ne sommes pas des Israélites selon la chair, il peut y en avoir aussi parmi nous. Mais si nous ne sommes pas des Israélites selon la chair, mais des croyants en Jésus, le Messie d'Israël, quel est le rapport que nous avons avec l'Israël selon la chair ? Le nom d'Israël revient aussi dans tous les journaux que nous pouvons lire, presque chaque jour, dans les journaux papier, audio et visuel. Le nom d'Israël revient très fréquemment et nous allons aussi avoir à déterminer quelle est la relation entre l'Israël dont nous parle la Bible et puis cet Israël dont les nouvelles du monde aujourd'hui parle si souvent. À cause de cette connexion, j'ai remarqué que quand on parle d'Israël au milieu des chrétiens évangéliques, les passions sont promptes à s'allumer. Il y a des gens qui ont des opinions très arrêtées, qui les prennent fortement à cœur et qui ne sont pas contents du tout si quelqu'un exprime une autre opinion que la leur. Il y a certains sujets comme ça qui déclenche davantage des réactions, oui, agressives que d'autres. Et le sujet de l'Israël selon la chair, et de sa place dans le plan de Dieu et de cela. Et je crois que nous avons besoin pour tout le week-end que nous allons passer ensemble d'une grâce de tolérance mutuelle, d'ouverture, pour que nous sachions dans la paix chercher ensemble quelle est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est l'Écriture sainte, sa parole, qui nous la révèle, et donc c'est en étroite association avec le déroulement de cet ensemble des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains que nous traiterons le sujet. Le fait de suivre le texte même nous empêchera, j'espère, de divaguer, de nous écarter de la pensée de Dieu, même si le risque est toujours présent, parce que nous avons toujours interprété ce qui est écrit. Donc il faut que le Saint-Esprit nous guide et que nous soyons humbles sous sa direction. Mais nous allons donc traiter le sujet en épousant autant qu'il sera possible le déroulement de la pensée de l'apôtre Paul, inspirée par Dieu, dans ces trois chapitres. C'est l'exposé le plus systématique de toute la Bible sur notre sujet. Cela n'est pas douteux. L'Épître aux Romains, comme vous savez, c'est une épître que l'apôtre Paul a écrite, une longue épître, à destination d'une église qu'il ne connaissait pas. Toutes les autres épîtres, il les a écrites à des gens qu'il connaissait déjà, mais pas l'Épître aux Romains. Il prépare son voyage dans la capitale de l'Empire, où il y a une église qu'il n'a pas fondée, et il expose, pour préparer cette visite, son évangile, comme il dit, le message qu'il a reçu de Dieu. Et donc, il fait un exposé beaucoup plus systématique que dans les autres épîtres. Dans les autres épîtres, il répond à des problèmes particuliers qu'on lui a signalés. Il réagit parfois dans l'urgence. Alors, les enseignements sont très précieux, mais ils n'ont pas le caractère systématique, bien ordonné et complet de l'Épître aux Romains. C'est pour ça que l'Épître aux Romains est si importante parmi les écrits du Nouveau Testament. Et il a inclus donc toute une section, 9 à 11, sur la question d'Israël. Une raison qu'il a eue de le faire, c'est que c'est un point sur lequel on l'accuse. Lui qui est juif, qui est israélite d'origine, et qui a reçu toute la formation d'un rabbin appelé à des fonctions de direction générale, il a été rencontré par Jésus-Christ. Il a été obligé d'abandonner complètement les idées qu'il avait sur Jésus auparavant. Lui qui était un persécuteur des premiers chrétiens, et il est devenu l'apôtre, le missionnaire, l'envoyé de Dieu pour prêcher l'évangile de Jésus et le prêcher aux gens de toutes les nations, aussi aux non-juifs, ceux qu'on appelle les païens ou gentils ou non-juifs ou nations. Ce sont des termes qui sont à peu près équivalents quand vous les trouvez dans le Nouveau Testament ou dans diverses traductions du Nouveau Testament. Et ses anciens collègues juifs l'accusent de trahison. Il est traître à sa patrie. Lui qui était le champion très jaloux des prérogatives d'Israël, maintenant il prêche le message à des gens de toute nationalité. C'est un traître et il doit s'expliquer avant de rendre visite à Rome sur ce sujet qui est si brûlant pour lui, qui concerne son ministère particulier. Nous allons commencer par le chapitre 9. Nous n'allons pas traiter tout le chapitre dans tout son détail, mais nous allons quand même le lire tout entier, quand même couvrir le message essentiel qu'il contient. Il y aura peut-être des éléments de répétition dans les deux études qui vont suivre, demain et après-demain, Dieu voulant, mais je pense qu'elles ne seront pas superflues, ces répétitions même. Et en tout cas, ce soir, donc, nous nous concentrons sur le chapitre 9, que je vais lire d'abord, et ensuite, j'essaierai d'introduire notre sujet général. Chapitre 9, donc, de l'Épître de l'apôtre Paul aux Romains. Je dis la vérité dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'ai une grande tristesse et un tourment continuel dans le cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème, séparé de Christ. Pour mes frères, les gens de ma parenté selon la chair, eux qui sont israélites. Vous voyez, c'est le problème que je viens d'évoquer, des accusations qu'on lançait contre lui, de trahison. Et si eux qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les pères, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Pour être les enfants d'Abraham, tous ne sont pas sa descendance. Mais c'est en Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul homme, Isaac, notre père. Les enfants, en effet, n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu qui est selon son choix, relevant non pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « Le plus grand sera esclave du plus petit. » Ainsi qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Jamais de la vie, car il dit à Moïse, « J'aurai compassion de qui j'aurai compassion, et je serai magnanime envers qui je serai magnanime. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a compassion. Car l'Écriture dit au Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre. » Ainsi donc, il a compassion de qui il veut et il fait s'obstiner dans l'oxy qui il veut. Alors diras-tu, comment peut-il encore faire des reproches? En effet, qui peut s'opposer à sa décision? Mais toi, humain, qui es-tu donc pour discuter avec Dieu? L'objet façonné, dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage noble et un objet pour un usage vil? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître son pouvoir, a supporté avec une grande patience des objets de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître la richesse de sa gloire à des objets de compassion qu'il avait d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qu'il a appelé non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs, ou païens ou gentils. Comme il le dit dans Osée, le prophète Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. » Et là même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « Fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, c'est l'Israël sur la chair, quand le nombre des Israélites serait comme le sable de la mer, c'est un reste qui sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et rapidement sa parole sur la terre. Comme Ésaïe l'a dit d'avance, si le Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire des armées célestes, ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne poursuivaient pas la justice ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, est passé à côté de cette loi. Pourquoi? Parce qu'il l'a poursuivie non pas en vertu de la foi, mais comme si elle relevait des œuvres. Ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement. Ainsi qu'il est écrit, je mets en sillon une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Et celui qui croit en lui, en Dieu, ne sera pas pris de honte. Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre. C'est dense. Il y a des tas de références à des textes de l'Ancien Testament. Et je pense que si vous n'êtes pas habitué à la lecture de ce passage, vous n'avez pas pu tout comprendre. Et j'espère que nous dirons assez pour clarifier au moins certains points. Mais la première partie de l'étude que je vous présente me semble devoir être consacrée au rappel de quelques faits, des données que je crois nul ne pourra contester, des faits simplement qui vont nous permettre de situer le problème que nous avons à examiner ensemble. Le nom Israël apparaît pour la première fois au chapitre 32 du livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, comme vous le savez. Il s'agit du chapitre qui relate un très mystérieux combat entre le patriarche Jacob et un personnage mystérieux qui se révèle être Dieu lui-même. Il est appelé un homme d'abord parce qu'il prend la forme d'un homme pour lutter avec Jacob toute une nuit, mais son nom est le nom ineffable qui échappe aux prises humaines, donc il doit être Dieu. Et la conclusion de cette nuit est étrange. La conclusion de cette nuit, c'est que Jacob, qui a lutté et qui finalement est blessé et qui va boiter toute sa vie, parce que l'ange lui a donné un coup sur la hanche, est déclaré vainqueur. Tu as lutté avec Dieu et tu as prévalu. C'est le paradoxe du rapport avec Dieu. Quand Dieu triomphe de nous, en fait, c'est une victoire pour nous. C'est tout bénéfice pour nous. Il nous libère de ce qui, finalement, n'est qu'une caricature vilaine de nous-mêmes, des chaînes qui nous empêchent d'atteindre vraiment notre vocation selon Dieu, selon la volonté de notre Créateur. Et donc là, être vaincu par Dieu, c'est être vainqueur. Il est donc déclaré vainqueur, avec ce sens que je vous suggère brièvement, et le personnage céleste lui dit, désormais, tu vas porter sur qui était celui de Jacob, le nom d'Israël, qui est mis en rapport avec cette victoire qui lui est attribuée. Alors l'étymologie en hébreu, c'est pas si facile à voir comment ça joue. La racine qui semble en cause, c'est la racine d'un mot qui est très courant pour le prince, sage, en hébreu. J'ai enseigné l'hébreu pendant 20 ans, je ne l'enseigne plus maintenant, mais j'ai donc quelques tâches d'hébreu. Cette racine semble en cause, mais c'est peut-être un jeu de mots, hein, ce n'est pas une étymologie de type scientifique. Le nom est mis en rapport avec cette idée de la victoire qui ennoblit Jacob, qui fait de lui un partenaire d'alliance pour Dieu lui-même, un prince selon la grâce. Donc le nom Israël apparaît à ce moment-là pour lui. Il s'applique ensuite à sa descendance. Sa descendance, un peuple nombreux, alors ils ne sont pas encore très nombreux au temps de son petit-fils. Ils ne sont pas très nombreux au temps de son petit-fils, mais il n'est pas un personnage très particulier, mais au moment où, avec ses fils, il émigre, Jacob, en Égypte, à cause de la famine qui sévit dans le pays où il se trouve, le pays qui a été promis à Abraham, mais il s'appelle dans, à ce moment-là, le pays de Canaan. Il émigre en Égypte, où son fils Joseph est quelque chose un peu comme un premier ministre, et pendant plusieurs centaines d'années, cette communauté se multiplie et devient finalement un peuple assez nombreux, plusieurs milliers d'habitants à partir de 70, et qui sont au début de toute la smala de Jacob, ça fait à peu près 70 personnes, et pendant en gros 4 siècles, ils vont multiplier au point que le pharaon, la dynastie a changé, ils ne sont plus favorables du tout à ce groupe, on a oublié Joseph, le pharaon prend peur et persécute, réduit en esclavage cette population d'Israël. Dieu les libère avec de grands prodiges, les conduit à travers le désert en leur promettant la conquête de la terre qu'il leur a promise. Et à ce moment-là, le nom Israël devient le nom du peuple. Du peuple qui est constitué en nation, une nation en alliance avec Dieu, comme nous allons le voir, pendant cette traversée du désert qui doit se prolonger pour diverses raisons. Donc, la deuxième application du nom, ce n'est plus seulement le patriarche, Jacob, Israël, mais le peuple, descendu de lui. Et puis, ensuite, sous la conduite de Josué, ce peuple conquiert le territoire qui était habité par les Cananéens, qui est appelé le Canaan, la terre de Canaan, dans plusieurs textes, non seulement de cette époque de l'Ancien Testament, mais encore après. Au psaume 105, par exemple, la terre est toujours appelée la terre de Canaan, du nom de ses habitants précédents. Mais la terre prend aussi le nom d'Israël, puisque c'est la terre qu'occupe désormais ce peuple libéré d'Égypte et descendant de Jacob. De sorte qu'on va avoir deux noms, et puis encore un troisième par la suite, les Romains qui vont inclure au bout du compte, après bien des siècles, ce territoire dans leur empire, vont plutôt l'appeler Palestine, du nom d'autres occupants, avec lesquels les Israélites ont guerroyé d'ailleurs pendant tout un temps, les Philistins. Le mot Palestine vient du mot Philistin, c'est la même racine, de telle sorte qu'il y a trois termes pour désigner à peu près le même pays, Canaan, Israël, Palestine. Le peuple s'installe en Israël, la royauté s'y établit, et on pourrait dire deux fois, une première dynastie qui tourne mal et qui est remplacée par la dynastie davidique. Le royaume se divise par sanction des péchés qui sont commis, et ce peuple d'Israël subit un exil, une déportation en deux très grandes phases. La partie nord, qui a constitué un royaume séparé pendant plusieurs siècles et qui s'appelait plus spécialement Israël, la partie nord est déportée par les Assyriens, c'est la grande superpuissance de la région à l'époque, et en divers lieux de leur empire, pour faire tenir les populations qui étaient conquises, c'était la technique qui était appliquée à l'époque. Transplanter ailleurs, les populations risquaient moins de se révolter, donc on faisait de grandes déportations. Elles sont déportées, alors ils ne sont pas derrière des barbelés ensuite, ils s'installent, ils cultivent, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le pays d'origine. Donc la partie nord a subi une déportation de la part des Assyriens, et la partie sud, le royaume de Juda, auquel le territoire de Benjamin, autre tribu, a été associé, jumelé, du territoire de Juda, qui a duré un peu plus longtemps comme royaume, et déporté par les Babyloniens, ou Chaldéens. Et c'est un exil qui n'est pas de tous les individus de la population, il reste une population localement, mais quand même, toute l'élite, les gens qualifiés, etc., sont déportés, ou presque tous. Il y a une partie qui était restée, mais qui n'a pas su gérer la situation et qui a dû, elle, s'enfuir en Égypte, de telle sorte qu'il y a eu aussi un exil égyptien de cette population. À partir de là, donc, nous avons Israël, mais un Israël dispersé dans plusieurs régions du Moyen-Orient. En gros, 70 ans plus tard, comme l'annonce le prophète Jérémie, il va y avoir un retour. Un certain nombre des exilés vont reconstituer une nation d'Israël, vont reconstruire les murailles, le temple d'abord, et puis les murailles de Jérusalem. Mais une très grande partie de ceux qui ont été exilés, ou plutôt de leurs descendants, va rester dans la dispersion, va rester en Babylonie, va rester en Égypte. Et c'est le début de ce qu'on appelle couramment, dans vos grecs, la diaspora, qui veut dire dispersion. Et au moment donc du 1er siècle, à l'époque donc, où va naître Jésus, il y a une part très importante de la population juive qui n'est plus en Israël-Palestine, mais qui est dispersée dans tout l'Empire romain et même au-delà, un peu. Et il y a une juiverie, comme on l'appelle, c'est pas péjoratif, importante à Alexandrie et en Égypte. À Alexandrie, une ville fondée par l'empereur grec Alexandre, c'est une très grande ville avec un phare qui est une des merveilles du monde, une bibliothèque fantastique, et les juifs sont très nombreux. Et comme là, ils ont cessé de parler hébreu, ils traduisent, avant le christianisme, ils traduisent en grec les écritures saintes qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle la Septante, parce que la légende, plus ou moins une légende, dit que c'est 70 traducteurs qui ont travaillé pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu en grec. Et ce sera la Bible dont se serviront essentiellement les premiers chrétiens. Parce que justement, ils vont essayer à travers toute cette dispersion. Dans l'Empire romain lui-même, on dit qu'il y a environ 10% de juifs. C'est une très très grosse minorité à l'époque. Cette dispersion est très importante. Alors il y a en même temps Jérusalem, le foyer local sur le territoire, mais c'est la situation à laquelle donc, on est arrivé au 1er siècle de notre ère. Ce qui va suivre à la suite de révoltes des Israélites qui sont restés en Palestine ou en Israël ou en Canaan, vous le savez aussi, je pense, c'est une destruction terrible de ce qui a été réédifié sur place. Les Romains sont la puissance, mais il y a un certain nombre d'Israélites et juifs qui ne tolèrent pas le joug romain et qui pensent que c'est une impureté qui est infligée au territoire. C'est à être une terre de sainteté. Or, ces juifs sont ces Romains sont des païens, sont des idolâtres, et donc il faudrait les chasser. Il va y avoir une révolte, une grande révolte qui éclate en 66 de notre ère, premier siècle, et qui va aboutir en 70 à la prise de Jérusalem et à la destruction complète de la ville et du temple. Un peu après, il y aura Massada pour terminer cette guerre juive. Il va y avoir encore un rebondissement au IIe siècle avec une révolte juive, celle de Bar Corba, un peu après 130 de notre ère. Et ça va se terminer aussi mal pour ces juifs révoltés. Et donc à partir de là, il n'y a plus de foyer important de vie juive sur place, à Jérusalem. Et il reste encore des éléments de population, mais la vie juive va se développer davantage dans la dispersion. parmi tous ces juifs dispersés dans tout l'Empire et au-delà. Et le judaïsme des rabbins, qui représente seulement le développement d'une des tendances du judaïsme du 1er siècle, le judaïsme des rabbins va se développer principalement en Babylonie. Et c'est là que le Talmud va être rédigé. Alors il va y avoir quelques écoles qui vont revenir dans le territoire d'Israël, mais le judaïsme va être plutôt un phénomène de la diaspora. Et l'Israël sur la chair donc, va continuer comme un phénomène tout à fait unique dans l'histoire, comme une dispersion dans une multitude de nations au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Et le sort de tous les Juifs d'Europe est un sujet qu'on peut suivre à travers les siècles. Il y a le judaïsme talmudique, puis il y a aussi la Kabbale qui se développe. Ces Juifs sont en gros des citoyens de seconde zone dans la plupart des pays européens, avec parfois une certaine prospérité et puis aussi des vagues de persécution qui sont très très dures. Parmi les éléments qu'il faut raconter, il y a un fait qui est important, parce qu'on dit israélite sur la chair, mais ça ne veut pas dire descendance biologique. Les Juifs, depuis l'Ancien Testament, accueillent des prosélytes, comme Ruth, la grand-mère de David, par exemple. Et il y a eu pas mal de prosélytes dans cette histoire d'Israël dispersé. Et en particulier, il y a tout un empire, disons un royaume, le royaume des Khazars, Khazars ou Khazars, qui a adopté le judaïsme. De telle sorte que c'était un royaume dans ce qui est la Russie actuelle, de telle sorte que toutes les populations juives de l'Est européen sont en grande partie des descendants de ces Khazars, qui étaient des prosélytes, qui n'étaient pas de sang juif, mais qui sont devenus adeptes du judaïsme. Vous voyez le paradoxe qu'il faut mettre en valeur. Un grand intellectuel juif, Arthur Koestler, a spécialement mis ce fait en valeur. Aux alentours du 9e siècle de notre ère, hein, ça remonte quand même très, très loin. Mais cela vous explique aussi pourquoi il y a eu une population juive si importante dans l'Est européen. Alors il y a eu des péripéties diverses. Une des plus tragiques a été l'expulsion des Juifs, qui étaient très nombreux en Espagne, en 1492. Ils ont considéré que c'était une deuxième expulsion du Jardin d'Éden, parce qu'ils avaient été bien en Espagne. Et là, il faut reconnaître que l'Empire ottoman, les musulmans, les États musulmans, ont mieux accueilli les Juifs expulsés que ne l'ont fait les États chrétiens, dits chrétiens, de l'Europe de l'époque. Cela peut être signalé au passage. Alors, ils étaient citoyens de seconde zone, hein, aussi, dans les États musulmans, mais ils ont été moins sauvagement traités et persécutés que dans certains pays européens. Avec le siècle des Lumières, avec les idéaux d'émancipation rationnelle, 18e siècle, hein, en gros, le sort des Juifs de cette dispersion européenne a changé. Et la Révolution française en particulier leur a accordé une citoyenneté pleine et entière. Et une partie de ce judaïsme romain a accepté cette nouvelle façon de penser, glorifiant la raison et le progrès. On appelle ça en hébreu la Haskala. C'est le terme pour ce qu'on appelle le siècle des Lumières, et où les Lumières dans l'histoire de la civilisation européenne. Et ils ont cru qu'ils allaient pouvoir donc s'établir comme des citoyens de plein droit et sans menace sur leur vie et sur leurs biens, à partir de ce moment-là, au 19e siècle en particulier, l'un des pays où ils ont pris part le plus fortement à la vie culturelle, c'est l'Allemagne. L'Allemagne était un pays où les Juifs étaient très nombreux. D'ailleurs, le yiddish, qui est la langue pour les Juifs de la partie est, centrale et est de l'Europe, c'est un mélange d'hébreu et d'allemand. C'est une sorte d'amalgame. Mais voilà que des tendances antisémites se sont manifestées de nouveau dans ces pays d'Europe où les Juifs croyaient avoir reçu une citoyenneté maintenant à l'abri de toute remise en cause. Et même en France, où précisément la Révolution avait reconnu la première leurs droits entiers. Et du coup, il y a certains juifs qui ont dit, nous ne pouvons pas simplement nous contenter d'être des citoyens dans ces pays divers, et on ne va jamais nous accepter. Il faudrait revenir dans la terre de nos ancêtres. C'est la naissance de ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est cette idéologie qui a émergé dans la dernière partie du 19e siècle, qui appelle à retourner à Sion pour peupler à nouveau le territoire ancestral. Après 2000 ans, et même plus pour certains éléments de la dispersion. Voyez. Et c'est en particulier un journaliste, mais un grand intellectuel, Théodore Herzl, qui a lancé cet appel sioniste. Il y a eu un congrès à Bâle. Et à partir de ce moment-là, avec des soutiens financiers, particulièrement les Rothschild, principalement de Paris, le baron Rothschild, finançant cela, des Juifs sont retournés dans la terre qui était au départ une terre de l'Empire ottoman, l'Empire turc, puis qui est ensuite est passé sous contrôle après la défaite des Turcs après la Première Guerre mondiale. Ils étaient alliés des Allemands, donc ils ont été défaits, l'Empire ottoman a été défait sous la tutelle anglaise. Et il y a eu un flot continuel à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, un flot continuel de colons qui se sont établis sous ces autorités politiques. Et là, il n'y a pas d'autorité politique d'Israël. Hein. Le plus souvent en rachetant, ils avaient les moyens financiers, en rachetant les terres des Palestiniens, comme on les appelait, des gens de la population locale. Les Anglais ont favorisé cela, il y a eu une déclaration appelée la déclaration Balfour qui a dit, oui, il est bon qu'il y ait un foyer national pour les Juifs de tous les pays dans cette terre de leurs ancêtres, la terre d'Israël. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté et déjà dans les années qui ont précédé la persécution sous le nom de solution finale par le régime nazi de Hitler et la Shoah, l'extermination de 5 à 6 millions de Juifs pendant cette Deuxième Guerre mondiale dans toute l'Europe. Et ça, c'est de nouveau un immense événement qui a atteint l'ensemble de l'Israël sur la chair. À l'issue de cette guerre, donc l'émigration qui est dite en hébreu Aliyah, la montée vers Jérusalem, a repris, d'autant plus, et des rescapés de la Shoah en particulier. Et là, la volonté sioniste a abouti à la création d'un État d'Israël qui n'avait plus existé depuis le temps de l'Ancien Testament, hein, d'un État d'Israël établi en 1948 que les Nations Unies ont reconnu. En partie, cette création a été possible parce que Staline en était d'accord, parce que ses premiers pionniers de l'État d'Israël étaient des socialistes qui établissaient des kibboutz, qui étaient comme des kolkhozes, des communautés de type anticapitaliste, d'exploitation du territoire, et Staline a cru qu'il aurait un allié avec cet État d'Israël, donc il a été d'accord. Les États-Unis, avec une population juive importante qui compte dans les élections, le voulaient, et Staline était d'accord, donc ça s'est fait. L'État d'Israël a été fondé en 1948, mais non sans guerre civile avec les Palestiniens qui étaient sur place. Il y a eu des faits de terrorisme de part et d'autre, mais l'État d'Israël a existé. D'autres juifs sont venus, pas une majorité des juifs du monde quand même encore, hein, mais plusieurs millions de juifs finalement se sont établis, et avec la déliquescence de l'Empire soviétique, des juifs de l'ancienne URSS sont venus aussi fort nombreux. Donc l'État d'Israël s'est étoffé. Et en 1967, il y a encore eu un épisode vraiment très marquant, la guerre des six jours. Tous les voisins arabes d'Israël, considérant que les Palestiniens arabes avaient été spoliés par la création de cet État qu'ils considèrent comme tout à fait injuste, illégitime, et comme un cas de colonisation par les puissances impériales occidentales, les États arabes, beaucoup plus nombreux à l'époque, avec des armées assez nombreuses, ont préparé la guerre contre Israël. L'Égypte et la Syrie et Israël, c'est très peu de choses, c'est même pas la taille d'un département français. Et en six jours, l'armée israélienne, avec d'ailleurs les Mirages français pour son aviation, a remporté une victoire éclatante, incroyable, en 67, et a conquis la maîtrise de Jérusalem. Pour la première fois depuis tant de siècles, Jérusalem était devenait sous un contrôle juif, israélite, du point de vue politique. C'est de cette date que notre situation présente encore est issue, avec des territoires occupés que l'armée israélienne a conquis, mais qui ne sont pas reconnus comme territoire d'Israël par la communauté internationale. Vous avez des quartiers arabes à Jérusalem même, et le problème est vraiment aigu. De la coexistence et des revendications qui ne sont pas terminées. Il y a eu d'autres guerres depuis, la guerre du Kippour, déclenchée au moment de la fête du grand jour des expiations. Cette année, c'était le 18 septembre, c'était il y a quelques jours. La fête du Kippour a été choisie par les armées arabes pour attaquer Israël. Et là, ça a failli mal tourner. Mais Israël l'a de nouveau emporté. Nous avons une situation qui reste tendue, très tendue jusqu'à ce jour. Voilà quelques faits concernant l'Israël sur la chair qu'il me semble utile de garder à l'esprit. Alors maintenant, nous passons au point de vue de Dieu, considérant ces choses, au point de vue qu'il nous révèle dans sa parole. Du point de vue de Dieu, quel est le fait le plus important à propos de ce peuple Israël? Je pense qu'on peut le résumer en disant c'est son élection. Le mot élection est un synonyme du mot choix. C'est le peuple que Dieu a choisi. Après la dispersion de Babel, Dieu a décidé de traiter avec l'humanité en choisissant ceux qui allaient être ses partenaires et ses instruments. Jusqu'alors, semble-t-il, jusqu'à Genèse 11, il a traité avec toute l'humanité ensemble. Mais au chapitre 12, il choisit Abraham. Abraham, et il promet que sa lignée sera en bénédiction pour toutes les nations. Et il lui promet aussi le territoire, qui n'est pas son territoire d'origine, mais le territoire de Canaan, pour sa descendance. Il choisit Abraham, il choisit encore, et c'est ce que met en en relief le texte de l'Épître aux Romains que nous avons lu, il choisit parmi les descendants, selon la chair d'Abraham, un seul pour être héritier de ses promesses. Abraham a eu un fils nommé Ismaël. Il a eu d'autres fils encore, d'après le texte de la Genèse, d'une concubine appelée Keturah. Mais c'est seulement en Isaac, le fils donné miraculeusement, parce qu'elle avait passé l'âge, à Sarah qui avait été stérile, c'est ce fils qui est l'héritier des promesses, exclusivement. La liberté de choix de Dieu se manifeste. Ce n'est pas le fait de descendre biologiquement qui compte d'abord. C'est en Isaac que sera appelée ta postérité. Vous voyez, c'est le verset que Paul cite dans le texte que nous avons lu. Et puis ça continue. Isaac lui-même a deux fils. Il a deux fils et là, c'est des jumeaux. De faux jumeaux, hein. Mais des jumeaux dans le sein de Rebecca. Et il choisit non pas Ésaü, qui est sorti le premier du sein maternel, mais Jacob. Nous avons de nouveau ce choix qui s'exerce. Et l'apôtre Paul souligne, c'est pas que Dieu ait considéré que Jacob avait des plus grands mérites qu'Ésaü. Non, c'est pas en fonction des œuvres, des actes qu'il allait faire plus tard, que Dieu aurait su d'avance. Non, c'est pas sur la base des œuvres. C'est simplement pour montrer sa souveraineté. Ça dépend que de lui. Dieu a choisi parmi ses deux jumeaux celui qui allait hériter des promesses, Jacob plutôt qu'Ésaü. Ésaü ayant un autre nom, je vous le signale au passage, Édom. Il a choisi Jacob. Alors parmi les fils de Jacob, il ne choisit plus davantage. Maintenant, tous les fils de Jacob deviennent les ancêtres des tribus qui vont constituer le peuple d'Israël. Donc c'est le peuple élu, parce que c'est la lignée élue, Abraham, Isaac, Jacob. Mais quand il devient assez nombreux pour constituer un peuple, il devient nation élue, nation sainte. Et dans l'alliance que Dieu contracte avec lui au Sinaï, au chapitre 19 du livre de l'Exode, nous avons une définition du statut que l'élection divine confère à ce peuple. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et il ajoute encore plus loin, une propriété personnelle. Ce n'est pas que Dieu ne possède pas tous les droits sur tous les peuples. Il le dit bien, si vous m'écoutez, vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. C'est justement parce que Dieu est le Dieu de l'univers entier et qu'il a tous les droits sur tous les humains, qu'il a le droit de choisir comme il lui plaît, et il choisit ce peuple-là pour être nation sainte, c'est-à-dire nation mise à part, qui est sa propriété plus spéciale. Et l'autre expression, c'est royaume de prêtres. Là, il y a deux interprétations principales. C'est un royaume qui va jouer comme le rôle de prêtre, disent les uns, donc qui sera comme intermédiaire entre les nations et le vrai Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens. Je pense que le sens est plus proche du mot saint dans la nation sainte. Les prêtres sont dans le peuple ceux qui appartiennent plus spécialement à Dieu. Le cachet sacré qui les caractérise signifie qu'ils sont vraiment là les hommes de Dieu qui lui appartiennent plus étroitement encore que tout le monde. Et il en est ainsi pour Israël, qui est royaume de prêtres, parmi tous les royaumes, le royaume qui appartient spécialement à Dieu, le royaume sacré ou saint. Donc le fait principal, c'est ce privilège, qui est le privilège d'être le peuple choisi par Dieu, et qui lui appartient en tant qu'Israël selon la chair. Dieu l'a choisi, mais ce sont les descendants, auxquels les prosélytes peuvent s'ajouter, mais quand même d'abord les descendants selon la chair d'Abraham, Isaac, Jacob. La liste des privilèges que l'apôtre Paul énumère dans Romains 9, c'est tout ce qui est lié à cette élection divine. Ils sont israélites, ils portent le nom d'Israël, le nom de leur ancêtre, qui est un nom glorieux, à qui appartiennent l'adoption filiale. Ce peuple est décrit par Dieu comme son premier-né, dans le message que Moïse doit donner à Pharaon. Laisse aller mon peuple, Israël est mon premier-né. Et il a ce privilège d'être comme le fils aîné. À l'époque, le droit d'aînesse comportait bien des avantages. Et donc, c'est comme le fils aîné pour Dieu. C'est ça, l'adoption filiale. C'est celle qui appartient à tout le peuple comme tel. Ensuite, il dit la gloire. Alors, ce n'est pas la gloire d'être Israël. Là, le mot gloire désigne certainement la forme que Dieu donnait à sa présence au milieu du peuple. Dans le récit de l'Exode et du livre des Nombres, il est assez souvent question de la gloire du Seigneur qui était représentée par une colonne comme un nuage qui était noir pendant la journée, mais comme de feu pendant la nuit, comme des éclairs incessants, et qui guidaient le peuple, et qui symbolisaient la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et cette manifestation sensible est appelée très souvent la gloire. Donc il leur appartenait, à cet Israël, selon la chair, d'avoir cette résidence spéciale de Dieu, qui ensuite a été manifestée par le temple aussi. Les alliances. Alors les alliances, on peut dire qu'il y a une alliance qui a été renouvelée et réaménagée à divers moments. On peut dire les alliances, il y a celle avec Abraham déjà, il y a celle avec par Moïse, il y a celle avec David, et qui a été renouvelée par d'autres rois. Donc c'est là l'explication du pluriel, les alliances. La loi, ben c'est la Torah, hein, c'est la Torah. Dieu a donné à ce peuple une révélation de sa volonté, des préceptes qui donnent la vie si on les respecte. La Torah de Moïse, expression de la volonté de Dieu. Le culte, là aussi, Moïse, aidé de son frère Aaron, a organisé le culte selon la volonté de Dieu. C'est aussi une prérogative de cet Israël sur la chair. Les promesses, et oui, parce que ces promesses sont des promesses qui se tournent, sont des paroles qui se tournent vers l'avenir. Les pères, et oui, ils peuvent dire nous avons Abraham pour père, selon la chair. Les pères, et puis alors, le couronnement, l'honneur le plus incroyable, le privilège le plus impensable qui soit donné à un peuple selon la chair, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est Dieu au-dessus de tout, béni éternellement. Toute communauté humaine se vante des grands hommes qu'elle a pu enfanter, des grands héros qui sont sortis de son sein. Et là, du sein d'Israël, selon la chair, est venu Jésus, qui est le Messie d'Israël, le Christ égale Messie, Mais il n'est pas un simple homme. Il est Dieu lui-même, le Dieu suprême, venu parmi les hommes comme un homme, mais restant Dieu, Dieu au-dessus de tout, béni éternellement, est un Israélite. Dieu, le Fils, qui a pris le nom de Jésus, est issu de ce peuple. C'est le privilège suprême pour une communauté selon la chair. Voilà ce que l'apôtre Paul souligne à partir de ce fait de l'élection. Ce qui continue dans l'Ancien Testament et puis le Nouveau, c'est ceci. Ce privilège n'est pas une assurance tout risque. Ce privilège ne donne pas aux Israélites une immunité comme l'immunité du président de la République, que personne ne peut faire comparaître pour un procès, donc il est en fonction. Cette élection implique responsabilité et aussi punition si Israël ne répond pas à ce Dieu qui l'a choisi. Le prophète Amos, chapitre 3, verset 2, dit « Je n'ai connu au sens choisi, qui est un sens fréquent de connaître dans la Bible, certaines traductions mettent d'ailleurs correctement choisi, je n'ai connu ou choisi que vous, parmi tous les peuples de la terre, élection, c'est pourquoi je vous traiterai plus sévèrement. » Le privilège d'Israël ne l'exempte pas du jugement de Dieu. Au contraire, l'élection accroît sa responsabilité. Et l'histoire que l'Ancien Testament nous présente, c'est précisément l'histoire du dévoiement d'Israël, de ses rébellions et transgressions constantes, de son goût pour l'idolâtrie, alors que le vrai Dieu s'est révélé à Israël, de telle sorte que des sanctions terribles tombent, les prophètes les annoncent, et elles se réalisent. Il y a ces destructions de Jérusalem, ces déportations dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Tout cela a été annoncé par les prophètes. C'est la sanction que Dieu fait tomber. Et là, Dieu se révèle comme le vrai Dieu, qui est le Dieu d'Israël, parce qu'il l'a choisi, mais qui n'est pas un Dieu à disposition d'Israël, qu'Israël pourrait actionner comme une marionnette. Ça, c'est le cas des dieux des païens. Les dieux des païens, ils les ont fabriqués et ils s'en servent comme de marionnettes. Ils tirent les ficelles pour que ces dieux les délivrent. Une profonde ambiguïté, bien sûr, dans cette idolâtrie. Mais aux yeux des anciens dans le Moyen-Orient païen de l'époque, quand un peuple est vaincu, c'est que son dieu a été battu par le dieu du voisin. C'est le dieu qui a été plus faible, car le dieu, il est là pour donner la victoire à ceux qui le vénèrent. Et le dieu d'Israël est un dieu qui, au contraire, châtie son peuple, se montre comme s'il était son ennemi. Les textes de jugement sont très très nombreux et terrifiants dans beaucoup de livres prophétiques. Mais ils sont en même temps accompagnés d'une promesse. C'est toujours entremêlé. Après que les jugements seront passés, Dieu va restaurer, Dieu prépare un avenir, car il est un Dieu de grâce, de compassion. Dieu va envoyer son Messie, quelqu'un qui sera revêtu de son esprit pour donner la victoire à son peuple, un peuple renouvelé, un peuple régénéré. C'est la promesse qui est faite chez beaucoup de prophètes, avec un thème qui est assez précis, que nous allons rencontrer à nouveau, pas tellement aujourd'hui, mais dans les chapitres qui vont suivre, chapitre 11 essentiellement de l'Épître aux Romains. Ce n'est pas tout le peuple qui en profitera. Parce qu'il est en majorité fait de rebelles et d'idolâtres. Ce n'est pas tout cet Israël selon la chair. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Enfants de la chair, pas enfants de Dieu. Et ils n'ont pas l'héritage des promesses faites à Abraham. messe de bénédiction, de salut. C'est un reste, le reste fidèle. Il y aura un reste. Il y aura des Israélites qui se repentiront de leurs péchés, qui se tourneront vers le vrai Dieu. Et il y aura un reste. Si c'est quand même dans le chapitre 9 déjà, c'est dans le dernier verset. Si l'Éternel, verset 27, quand le nombre des Israélites serait comme le sable de la mer, c'est un reste qui sera sauvé, a prophétisé déjà Ésaïe. Et c'est ce que rappelle Paul dans son chapitre. Dieu a promis une restauration, un avenir de salut, mais ce n'est pas pour la descendance charnelle, c'est pour le reste fidèle. Et c'est ce qui résout la... Je pense qu'il faut que j'achève assez bientôt, donc je vais abréger. C'est ce qui résout la question que l'apôtre Paul pose, mais je ne sais pas si vous l'avez bien saisi, dans ce chapitre. C'est Israël sur la chair, qui sont ses parents, hein, ses frères sur la chair, et il les aime. Ils ont tous ces avantages de la part de Dieu. Alors, si maintenant ils se révèlent ennemis de Dieu, s'ils rejettent le Messie qui leur est envoyé, est-ce que la parole de Dieu est caduque, c'est-à-dire qu'elle tombe, qu'elle ne vaut rien? Est-ce que Dieu, finalement, n'a pas été capable de tenir ses promesses? Pas du tout, dit l'apôtre Paul, pas du tout. Parce que ces promesses n'ont jamais été faites pour tout le peuple charnel, pour tous ses enfants sur la chair, mais seulement pour le reste fidèle qu'il présente là comme les élus de Dieu au sein du peuple élu. Ce qui résout la difficulté de ce rejet de son Messie par Israël, et de ce fait Israël se rejette lui-même hors du plan de Dieu, ce qui résout le problème, c'est qu'il y a une deuxième élection, une élection au sein du peuple élu. Au sein du peuple élu, il y a les enfants selon la chair, comme Ésaü, les de Rebecca, et il y a l'enfant de la promesse. C'est Dieu qui décide. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, qui exerce comme il le veut sa miséricorde. Il est comme le potier qui fait ce qu'il veut de l'argile, et il prépare d'entre les juifs et d'entre les païens, dit-il, le peuple de ceux qui bénéficient de son salut, le peuple des appelés élus à titre individuel pour hériter du salut, qui constituent ensemble l'Église. L'Église n'est rien d'autre que cela. Les Israélites du reste fidèles en Israël qui ont reconnu leur Messie, qui se sont joints à lui et qui avaient été pour cela élus par Dieu, et tous ceux qui se joignent à eux et qui deviennent concitoyens des saints dans cette communauté nouvelle, qui sont entre les païens, les non-juifs, mais qui sont touchés par la même grâce, qui bénéficient d'une même élection. Ils n'étaient pas le peuple de Dieu, comme le dit le prophète Osée. Ils étaient appelés pas mon peuple. Mais Osée prédit que Dieu va prendre ceux qui ne sont pas son peuple pour en faire son peuple. Voilà ce qui se réalise maintenant, dit l'apôtre Paul, avec l'appel des païens, des non-juifs, qui bénéficient du salut comme les Israélites croyants, les Israélites du reste. Voilà le message que l'apôtre développe dans ce chapitre 9 de l'épître aux Romains. Une question quand même se pose. Si Israël a joué ce rôle de préparation et de communauté dans laquelle le Messie devait naître, pour être vraiment tout à fait un homme, il fallait qu'il appartienne à une communauté, à une nation, à un peuple, qu'il ait une famille, Est-ce que c'est tout ce qu'on peut dire de lui une fois que c'est réalisé? Est-ce que Dieu, alors, referme le livre, il a élu Israël pour cela, c'est la chose qui compte, que son fils, Dieu béni éternellement, naisse d'une juive, d'une jeune fille juive qui s'appelle Myriam. Est-ce que c'est tout ce qu'on a à en dire? C'est l'essentiel, c'est le principal. Mais je pense qu'il y a autre chose à en dire quand même. Que Dieu, dans la richesse de ses plans, a encore un autre paragraphe à réaliser. Et cela, nous allons le voir en étudiant les autres chapitres de l'Épître aux Romains.
Merci beaucoup, Monsieur Blocher. Alors, est-ce que vous consentez à ce qu'il y ait ou deux ou trois questions éventuellement
Je les accueille très volontiers, oui. Alors, je ne réponds pas forcément, hein, je ne suis pas capable de répondre à tout, mais j'accueille les questions. Et surtout, si vous les prononcez à voix haute et intelligible, parce que, vous savez, je suis vieux, et donc je suis un peu dur de la feuille.
Alors, je vais peut-être commencer. C'est vrai que le peuple juif, donc, a subi pas mal de persécutions. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de l'antisémitisme. Mais comment expliquer qu'il y ait un tel acharnement sur ces peuples? Est-ce qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles voilà, il y a une espèce d'antisémitisme, entre guillemets, historique?
Alors, je compte en reparler. Je pense que c'est... Oui, demain ou après-demain, je ne sais plus très bien. Mais je réponds déjà maintenant, quand même, l'essentiel, surtout peut-être quelques-uns parmi vous ne pourront pas venir au Térémat, je ne sais pas. Donc je réponds. Il y a un livre très intéressant du philosophe français si fameux, je pense que vous avez tous entendu son nom, Jean-Paul Sartre, qui a régné sur la vie intellectuelle française dans la période de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit un livre intitulé « Réflexion sur la question juive ». Et il réfléchit précisément au phénomène de l'antisémitisme ou anti-judaïsme, et il veut montrer qu'il n'y a aucune raison objective pourquoi on a persécuté spécialement les juifs au fil des siècles. Il prend toutes les raisons qui ont été avancées et il les démolit une à une. Et donc il déplaît complètement le terrain. Et il conclut donc que c'est simplement le jugement, en quelque sorte libre, sans raison, des autres hommes qui font les juifs, qui déterminent leur statut de juif et l'hostilité à leur égard. Ça veut dire qu'il n'a aucune explication. Qu'il renonce à l'explication pour en faire simplement une expression de la souveraine liberté qu'il attribue aux individus humains. C'est là un thème parfaitement net de sa philosophie. Je trouve que cet examen est très intéressant quand je l'ai lu, il y a longtemps déjà, mais j'ai trouvé que c'était une démonstration éblouissante, parce qu'il y a une raison qu'il ne traite pas, une raison qui pour lui n'a aucune existence, donc il ne l'envisage même pas, c'est qu'ils sont le peuple élu de Dieu, ou les descendants de celui que Dieu avait élu à l'époque de Moïse. Il y a une marque, un souvenir de l'élection divine par le vrai Dieu, qui est indélébile. C'est pour ça que tout ne s'arrête pas au premier siècle, quand le Messie premier arrive, qui a encore un avenir. Qui se dessine, parce que la marque est toujours là sur ses descendants. Ils sont des descendants selon la chair d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et comme c'est le vrai Dieu qui a mis cette marque, ça compte. Et je crois vraiment que si les humains de toutes sortes ont eu une telle rage profondément irrationnelle contre les Juifs, cherchant des tas de raisons, mais tout bidon, au bout du compte. c'est qu'ils étaient animés par une inspiration satanique. Satan ne peut que haïr ces juifs qui portent la marque de l'élection divine du vrai Dieu. Et c'est, je pense, un facteur démoniaque qui se trouve dans toutes les nations sous l'antisémitisme. Donc, voilà, c'est comme ça que je réponds à votre question.
Et alors, du coup, moi j'ai une autre question. Comment on peut interpréter le regain d'antisémitisme qui semble démarrer en ce moment, dans ces années? Par exemple, le CNEF fait un colloque sur l'antisémitisme.
Oui, oui.
Du coup, est-ce qu'on peut l'interpréter?
Il me semble assez clair, là, sans regarder très loin et très profond, que c'est la création de l'État d'Israël, la situation d'Israël au Moyen-Orient, qui alimente le nouvel antisémitisme, la nouvelle vague d'antisémitisme. La Shoah, l'extermination des Juifs par le régime nazi, avait produit un tel choc, ça a quand même été si fort, que pendant quelques dizaines d'années, l'antisémitisme a dû faire profil bas, ne s'exprimer que très peu. Mais l'injustice commise, parce que je pense qu'on peut dire qu'il y a ça aussi, l'injustice commise à l'égard des populations palestiniennes qui étaient localement implantées, et la profonde indignation des musulmans devant l'idée que dans leur Moyen-Orient, puisqu'ils se considèrent comme les mains du Moyen-Orient, il y a cette enclave d'une civilisation occidentale, parce qu'elle est de type occidental, cela, je crois, alimente un nouvel antisémitisme. Et avec des cas particuliers susceptibles de faire réagir les masses, d'exciter les émotions, comme ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans les territoires occupés, il y a des drames individuels énormes et l'État israélien est d'une extrême brutalité, hein, je pense qu'on peut le dire, mais en même temps il joue sa survie. Il y a une situation quasiment inextricable, mais je pense que c'est là qu'est la source du regain d'antisémitisme qu'on observe.
Est-ce que, bon, en tant que chrétien, je pense que c'est facile pour nous, mais quelqu'un qui a lu la Bible, par exemple, quand on regarde dans Josué, oui, par exemple, ce qui est décrit, en fait, ça présente les Juifs comme les méchants, en fait. Je ne parle pas en tant que chrétien, mais je parle, si j'étais un non-croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, en lisant Josué et autres, est-ce qu'on ne va pas plus prendre les Juifs pour les méchants? Est-ce que ça ne peut pas justifier?
Oui, je pense qu'on peut prononcer le mot de génocide à propos des ordres que Josué reçoit quant aux populations locales au Canaan. De fait, ils n'ont pas obéi entièrement. Et il y a quand même dans le livre des Juges l'indication comme quoi Dieu a aussi fait en sorte que cette extermination n'ait pas lieu. Les habitants du pays n'ont pas été exterminés pour que les bêtes sauvages ne se multiplient pas à l'excès. Vous avez un verset dans le livre des Juges qui indique cela, ce qui montre que la situation est complexe par rapport aux faits mêmes qui se sont produits. Mais il y a pour moi deux considérations principales, et là évidemment que je reçois comme chrétien, deux considérations principales par rapport au problème que vous avez soulevé. Premièrement, dans Genèse 15, il y a une indication très intéressante. Dieu dit à Abraham que ses descendants, après donc, plusieurs centaines d'années, conquerront ce pays qui lui a été promis. Et il explique que ce n'est pas pour tout de suite, parce que la coupe d'iniquité des habitants du pays, Amoréens, etc., n'est pas encore pleine. Donc Dieu souligne que cette conquête du pays et cette mise à mort des Cananéens sera quelque chose qui respectera la justice. Ce doit être une punition méritée. Et tant qu'ils ne l'ont pas mérité assez, Dieu sur soi. Oui. D'après donc les versets qu'on trouve dans la dernière partie de Genèse 15. Je trouve que c'est très impressionnant pour montrer dans quelle perspective cette conquête est conçue de la part de Dieu selon la révélation biblique. Et alors là, je glisse un petit souvenir aussi. C'est un souvenir d'une réponse que mon père avait donnée dans une réunion d'étudiants. Il paraît qu'un archéologue qui travaillait sur la religion des Cananéens, là, il disait, avant de venir faire mon travail en terre d'Israël, je me demandais pourquoi Dieu avait édicté cette extermination des populations locales. Et maintenant que je vois quel était leur culte, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Tant c'était horrible. Il y avait des sacrifices d'enfants, par exemple. Il y avait des... Le culte était fait de prostitution. Des prostituées, hommes et femmes, pour faire de la prostitution comme acte de culte. C'était ça, ces religions du Moyen-Orient ancien. Et donc, Dieu a voulu nettoyer cela par rapport à Israël et au culte saint qu'Israël devait apprendre à lui rendre. Ça, c'est la première considération. Mais il y en a une autre. Je crois qu'il nous faut observer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous aurons l'occasion de reparler du changement qui s'opère au moment où les promesses s'accomplissent et où le Messie, Jésus-Christ, vient sur la scène. Mais l'Ancien Testament est préparatoire. Dieu a précisément constitué Israël comme cette nation sainte afin de préparer la venue de Jésus-Christ, son œuvre. Et le Nouveau Testament nous dit très très clairement qu'il a là installé des figures, en langage technique on dit des types, des figures charnelles, des réalités spirituelles qu'il visait, qu'il a instituées à partir du Nouveau Testament, à partir de la constitution de l'Église, le corps de Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avons des types, et c'est une réalité spirituelle qui correspond dans le Nouveau Testament. L'un de ces types, mais c'est la nation d'Israël comme constituée politiquement, avec une armée, etc. C'est un type qui ne continue pas dans l'alliance du Nouveau Testament. La guerre continue. Oui, parce que avec le mal dans le monde, il y a la guerre. Mais la guerre du Nouveau Testament, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre des êtres humains, c'est contre les puissances spirituelles. Et les armes ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des flèches et des sagaies. Ce que nous manions dans la guerre spirituelle, Éphésiens 6, c'est la foi, la prière, la parole de Dieu. Donc, il nous faut, nous chrétiens en tout cas, comprendre qu'il s'agissait d'un régime provisoire, où Dieu montrait comme en image ce que doit être le combat contre le mal, mais ce n'était pas l'accomplissement de son dessein qui se réalise parmi les disciples de Jésus. Voilà, me semble-t-il, les deux éléments qui comptent le plus pour moi quant au problème qui a été posé.
Dernière question alors, parce que...
Alors moi c'est un tout autre sujet. Alors j'ai bien compris que Israël selon la chair, mais quand même quand on regarde l'état d'Israël aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une certaine particularité. Par exemple, comment ils ont pu reconstituer cet État d'Israël en 1948, la guerre des six jours, où ils ont vaincu contre toutes nations arabes qui étaient plus nombreux qu'eux, etc., etc. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de particulier dans cet État d'Israël.
Je le crois. Je le crois aussi. Et nous aurons reparlé, certainement. Je crois que c'est un signe de la volonté de Dieu qui se réalise, du dessein de Dieu positif qui est en train de s'exécuter. Ce n'est encore qu'un commencement. Je signale quand même qu'il y a des chrétiens évangéliques qui ne le croient pas et qui pensent que tous ces éléments que vous venez d'évoquer, qui nous frappent, sont des déguisements de l'adversaire, sont des leurres sataniques. Vous avez des chrétiens évangéliques qui croient cela, qui croient que donc c'est pour égarer les chrétiens que des choses quasi miraculeuses se sont produites dans l'histoire de cet État. Je ne le crois pas, quant à moi, mais je vous le signale, ça vous montre la difficulté du sujet, et vous pouvez comprendre aussi pourquoi donc des passions s'enflamment assez facilement entre pro-Israël et anti-Israël, anti-sioniste. Il y en a aussi parmi les chrétiens, et des gens qui se veulent modérer, comme on voit, parfois prennent des coups des deux côtés. Vous voyez, c'est une question qui est assez délicate, que nous essaierons donc de traiter, nous la toucherons au moins dans l'étude que nous avons à faire.